Radio Stardust.
Morning Edition from
NPR News.
France Inter, le 18-20.
Les gens qui amènent nos filles là-bas nous ont dit qu'ils cherchaient des personnes pour travailler chez des patrons. C'est la souffrance qui nous oblige à laisser nos enfants partir.
Laisser partir ses enfants, laisser partir sa fille pour le Koweït, pour le Liban, servir de domestique là-bas, en sachant quand même qu'elle reviendra dans 2 ans, dans 3 ans peut-être. Ce soir, nous allons à Djougou, c'est au Bénin, la ville d'où l'on part et où l'on revient. Et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Virginie Pironon, vous l'avez entendu, au Japon, en Inde et à Hong Kong. À 18h50, la chronique pour tous de Julia Foy, c'est 2 ans de prison pour une photo sous une jupe de fille, c'est comme ça. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et si Maduro était loin d'avoir perdu la partie au Venezuela et si la Russie tirait les marrons du feu de cette histoire. Avant cela, nous partons pour l'Afghanistan. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Nous avons déjà eu l'occasion dans Un jour dans le monde d'évoquer les interprètes afghans de l'armée française à la mort de l'un d'eux. D'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps. Il s'appelait Kader Dwajai. C'était au mois d'octobre dans mes souvenirs. Oui. Il avait servi la France entre 2010 et 2012 et il faisait partie de ceux qui s'étaient vus refuser un visa pour la France comme beaucoup d'autres. Et c'est tout l'objet de votre livre. Bonsoir Quentin Muller.
Bonsoir.
Vous avez écrit Tarjuman. C'est comme ça qu'on prononce
Tarjuman.
Tarjuman, voilà. Ça veut dire interprète tout simplement.
Exactement.
Enquête sur une trahison française. C'est le sous-titre, vous êtes le co-auteur de ce livre qui parle justement de ces interprètes. Il y en avait 800 au départ qui ont servi d'interprètes, donc pas seulement d'interprètes d'ailleurs, qui sont les yeux, qui sont le décryptage permanent d'un pays pour l'armée française.
De manière assez vulgaire, on les appelle les personnels civils de recrutement local, Absolument. Les PCRL.
C'est vrai, mais encore une fois, ils ne se contentent pas de traduire des mots, mais c'est aussi où naviguer, comment, où aller, à qui parler, pour dire quoi, etc.
Exactement, pour moi, ce sont des traducteurs de vie. Parce que quand les troupes françaises se sont rendues en Afghanistan, finalement, elles n'avaient aucun relais dans ce pays inconnu. On n'avait pas de pied à terre vraiment en Afghanistan. Donc, quand nos troupes sont arrivées en Afghanistan, elles ne connaissaient pas du tout le pays. Et elles étaient dans des bases, reclus dans des bases, voilà, militaires. Elles avaient très peu accès à l'extérieur pour des raisons de sécurité. Et finalement, leur seul relais, en fait, et leur seul point d'attache avec l'Afghanistan, c'était leur interprète, mais c'était aussi leur cuisinier, c'était aussi leur chauffeur, c'était aussi leur magasinier qui venait tous les jours leur apporter des choses. Et c'était comme ça qu'ils pouvaient comprendre le pays.
Alors, 2 chiffres, Quentin Muller, pour commencer. Donc, à peu près 800 qui ont travaillé pour la France. Combien ont pu obtenir un visa au moment où on se parle, par rapport à combien qu'ils l'ont demandé?
Alors, il y en a eu donc en 2012, 73.
Donc, parce qu'il y a eu plusieurs vagues.
Il y a eu plusieurs vagues. 2012, 2015 et 2018. Exactement, 3 vagues. Donc, 73 en 2012. Sous la menace de l'association des interprètes afghans, il y en a eu 101 en 2015, et là, dernièrement, en 2018, 43.
Donc ça veut dire qu'il en reste
Et il en reste à peu près 600. Un peu moins de 600.
On est considéré comment? Alors 600, pardon, et sur ces 600-là, combien ont demandé réellement un visa, donc souhaitent réellement venir en France?
Alors pour la dernière vague, on a eu en tout 180 demandes. Donc en fait, c'était les dernières demandes que la France a reçues. Donc ils sont encore à peu près 140 à demander un visa pour la France. Mais beaucoup ont disparu. Beaucoup aussi sont dans des pays à l'étranger. Ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a une mesure pour les rapatrier.
Alors
également.
On va essayer de voir pourquoi, pour certains, ces visas sont refusés. Je voudrais que vous nous expliquiez d'abord comment on est considéré quand on est afghan, qu'on a travaillé pour la France. Ça veut dire quoi être un mauvais musulman désormais pour eux?
Eh bien, on est assez mal considéré, mais pas seulement par les talibans qui mènent une guerre contre les Américains et contre les forces nationales afghanes, mais aussi par la population qui est assez hostile finalement à l'intervention occidentale, et on peut le comprendre. Il y a eu aussi, il y a eu beaucoup de pertes civiles sur cette longue guerre en Afghanistan. Donc en fait, la population locale en général, quand même dans ce pays, rejette tout ce qui est lié en fait à une présence étrangère. Et donc le fait d'être afghan et d'avoir collaboré avec les forces étrangères, qu'elles soient françaises, qu'elles soient néo-zélandaises, qu'elles eût été australiennes, bah finalement c'est très mal considéré. C'est être un traître à la nation, c'est être également un vendu aux occidentaux, être un koufar, donc être un non-musulman, être un athée.
Est-ce qu'ils savaient le risque qu'ils couraient en commençant à travailler pour les Français, ou est-ce que cette situation s'est dégradée au fil du temps en fait?
Eh bien non. La majorité d'entre eux se sont engagés au tout début du conflit. et eux vraiment avaient l'espoir un jour que l'Afghanistan devienne un pays stable, un pays de paix, un pays démocratique où la liberté d'expression, la liberté du culte pouvait exister. Et c'est ce qu'on leur avait promis à la base, c'est ce que les Français leur avaient promis, c'est ce que l'OTAN leur avait promis. C'est-à-dire, nous on vient dans votre pays pour chasser Al-Qaïda, mais on vient également dans votre pays pour chasser les talibans et l'obscurantisme. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec un échec, avec une défaite de l'OTAN et une victoire des talibans. Et donc aujourd'hui, finalement, quand on, à l'époque, en 2001, quand un jeune interprète ou chauffeur, magasinier s'engageait avec les forces étrangères, il avait cet espoir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Le conflit s'est totalement enlisé.
Et aujourd'hui, les talibans sont...
La porte de sortie est faible et vraiment restreinte.
Et les talibans sont à la table des Américains aujourd'hui.
Également, dans les négociations.
Dans les négociations. Vous donnez plein d'exemples, vous racontez plein de morceaux d'histoire de ces Afghans-là. Il y en a qui sont très émouvants. Il y en a un qui s'appelle Oria, il s'est fait tirer dessus une fois. Il y a une bombe une fois aussi chez lui, donc il sait à peu près de quoi il parle. Et il a cette phrase terrible, il dit « Je regrette de m'être engagé dans votre armée. Parce qu'avant, j'étais un simple civil qui pouvait me rendre n'importe où, dans n'importe quelle province. Aujourd'hui, je suis un Afghan qui ne peut même plus circuler dans son propre village. Est-ce qu'il est représentatif des autres, Oria, pour ça ? Est-ce qu'il regrette, au fond ?
Alors, il peut avoir un regret, mais qui a quand même été très rarement formulé dans nos entretiens qu'on a eus avec mon co-auteur. Ce sont étonnamment des gens qui n'ont pas de haine et de rancœur vis-à-vis de la France. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas eu de mots durs envers la France qui ont été formulés par ces interprètes-là. Alors oui, ils le regrettent. Mais en même temps, ils ne le regrettent pas forcément parce que ils ont toujours combattu les insurgés. Ils ont toujours combattu, voulu combattre l'obscurantisme prôné par ces insurgés talibans. Et donc, il y a une forme de regret dans le sens où ils ont été aujourd'hui trahis et abandonnés. Mais il y a une forme aussi de... on s'est engagé pour notre pays et pour la liberté. Donc, forcément, il n'y a pas un regret marqué. Il y a un regret vis-à-vis d'avoir servi la France, mais pas un regret total de s'être engagé pour la liberté.
Et en même temps, il y en a un autre qui s'appelle Harry Fulay qui dit « Moi, je vais me postuler pour les forces spéciales américaines, comme ça au moins j'y travaille pendant un an et je serai sûr après d'aller aux États-Unis. » On va venir après sur les motifs qui font que la France refuse un certain nombre de dossiers, mais est-ce que ça veut dire qu'on est mauvais élève là-dedans ou
On est très mauvais élève, on reviendra sur les chiffres. Moi, j'ai pas mal de chiffres des pays de l'OTAN et on est très mauvais élève et on est le pire pays de l'OTAN vis-à-vis de ces rapatriements en termes de quantité.
Mais donc, exemple, les Américains, par exemple,
à contingent
équivalent,
voilà, équivalent.
Ça veut dire que si on est un interprète en anglais pour un Américain, on a un visa pour les États-Unis. Si on est en danger en Afghanistan,
alors il y a plusieurs conditions pour les Américains. Il faut avoir travaillé à peu près 2 ans. Faut remplir un certain nombre de conditions. Mais les Américains en ont rapatrié 1973. Il y a 16 000 demandes qui ont été approuvées, qui sont encore en attente d'être. Enfin, ces gens-là sont en attente d'être transférés aux États-Unis. Donc, on est sur des quantités qui sont bien plus importantes vis-à-vis de la France.
Alors, chez nous, il se passe quand même des choses assez étonnantes. Donc, vous l'avez dit, effectivement, ils sont réunis en association. Il y a d'ailleurs une avocate qui travaille pour eux inlassablement. Il y a notamment 11 cas qui ont été retoqués par le tribunal administratif de Nantes. Donc, le refus de visa a bien été retoqué, mais pourtant, le visa n'est toujours pas arrivé. Et vous le dites carrément, vous dites qu'il y a une volonté de faire traîner ces affaires. Pourquoi il y a une volonté de faire traîner ces affaires et de ne pas donner des visas à ces interprètes afghans?
Alors, c'est une question assez complexe de répondre là comme ça en quelques minutes, c'est assez complexe. Mais au final, cette affaire-là, moi, j'ai le sentiment qu'elle n'a jamais été prise au sérieux par nos politiques, que ça soit le gouvernement Hollande et aujourd'hui le gouvernement Macron. Ces gouvernements-là n'ont jamais saisi la portée symbolique et historique de régler cette affaire-là.
Pourtant, Macron avait dit, ils sont dans la même situation que les harkis, donc preuve que la portée symbolique.
Malheureusement, le dernier retrait a été un échec total, et je vous le dis total, c'est-à-dire qu'il y a eu 180 demandes, il n'y a eu que 43 dossiers qui ont été sélectionnés, des cas emblématiques d'interprètes qui ont été qui ont reçu des tirs, dont des proches ont été assassinés, sont encore en Afghanistan. Donc pour moi, c'est un échec total. Et en fait, c'est l'échec de la France de ne pas avoir su trouver la symbolique de cette affaire, de s'être investi pleinement. Et en fait, c'est pas très compliqué quand même de rapatrier 800 personnes avec leurs familles. Enfin, on est sur une mission qui est pas très très compliquée. Mais... sauf que ça ponctionnait un peu de budget au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Défense. Ça faisait mobiliser quelques hauts fonctionnaires, mais personne, je dis bien personne, au gouvernement Hollande et Macron, n'a eu cette motivation et de d'en terminer avec cette histoire et d'en rapatrier le plus possible et de rapatrier peut-être tous ces gens-là qui le méritaient, ce visa.
Alors, on voit au fil de votre livre qu'on les trimballe aussi beaucoup. Les visas, c'est à Kaboul. Ah bah oui, mais non, plus maintenant, c'est plus à Kaboul. Maintenant, c'est à Islamabad. Et pour faire la route jusqu'à Islamabad, entre Kaboul et Islamabad, c'est pas du tout une partie de plaisir. Il faut traverser des zones qui sont extrêmement dangereuses. Et vous dites même, mais c'est l'intérieur qui bloque, en fait. Et après, donc, on parle d'un vrai problème politique français. Ça veut dire, en creux, pas de nouveaux migrants chez nous. C'est ça que ça veut dire ou pas?
Oui, voilà. Alors, ces interprètes-là, malheureusement, ont toujours été associés à des migrants. C'est-à-dire que, dès 2012, on considère ces gens-là comme des potentiels migrants. Ils veulent venir en France, ils veulent profiter de notre système social et ils vont agiter leur CV en disant « moi, je mérite plus que d'autres migrants ». Mais ce sont des migrants en puissance. On les considère comme des migrants en puissance. Or, ce ne sont pas des migrants. Ce sont des gens qui ont collaboré avec l'armée française, qui ont porté les armes avec l'armée française, qui ont pris des risques avec l'armée française. Donc, ce ne sont pas des migrants. On les associe à des migrants, donc on fait le travail à reculons. Voilà. Alors, et ça, c'est un exemple concret du fait que l'ambassade refuse de les accueillir pour leur tamponner des visas. Par exemple, pour les 11 qui ont été retoqués, ils ont refusé de les accueillir pour un tampon et pour vérifier quelques papiers d'identité.
Alors, il y a parfois des choses qui sont plus jolies. Parfois, il faut que ce soit les généraux qui prennent la plume en disant « il faut vous occuper de cette personne ». Il y en a un qui s'appelle Bachir, notamment, qui a fini par obtenir ce qu'il voulait, parce qu'il a fallu qu'un général prenne la plume et dise « à l'heure où nous accueillons des centaines de migrants auxquels on ne doit que de la compassion, lui accorder un visa serait un geste non seulement équitable, mais également la moindre des élégances de la part de notre pays pour cet homme qui a tout risqué pour nous ». Oui. Les militaires, en soi, parce qu'il y a des exemples comme cela, mais pas que quand même. J'en cite un autre qui dit « oui, pour celui-là, ses moyens d'existence reposeraient sur des économies personnelles. Cependant, il semble très au courant des aides sociales qui pourraient être mises à disposition ». Donc on sent bien, y compris de la part des militaires, qui à chaque fois, d'un côté, on dit « ces hommes ont vraiment nous ont servi, ont servi la France ». Et de l'autre côté, les mêmes militaires qui sont aussi capables de dire « attention, ceux-là vont chercher des aides sociales ».
Je pense que tout dépend des personnalités, tout dépend des sensibilités. Pour certains militaires, un interprète, c'était considéré comme un gilet pare-balles, comme un casque, comme un tank. C'était c'était un outil de travail. On s'en servait pour dans nos missions et l'important, c'était de rentrer en vie en France. Et après, on coupait court. Toute relation humaine coupée court. Enfin, je vais pas non plus juger tous ces militaires là, mais certains, oui, effectivement, se sont investis pour leurs interprètes. Ils ont continué à prendre contact avec leurs interprètes. Ils leur ont proposé de l'aide. Ils les ont aidés aussi concrètement à leur niveau. Mais bon, voilà. Le ministère des Armées, c'est quand même la grande muette, donc c'est compliqué d'aller outrepasser en fait sa hiérarchie.
Aujourd'hui, Quentin Miller, est-ce que les dossiers qui restent et qui sont en souffrance vont finir par trouver une porte de sortie, ou est-ce qu'on est dans un entonnoir et que
alors,
pour beaucoup de ces migrants, c'est fini?
L'association a lancé deux procédures. Elle a lancé la procédure de protection fonctionnelle qu'elle a remportée deux fois là, donc récemment. En décembre et hier, donc sur deux cas. Donc ça c'est un grand espoir pour ces interprètes-là, d'obtenir ce fameux Graal de la protection fonctionnelle. Et elle a lancé une seconde procédure, c'est de, comme la dernière fois, de contester les refus de visa auprès du tribunal administratif de Nantes.
Et ça fonctionne, parce qu'on a bien vu pour ces 11 cas. Pour ces 11 cas, finalement, qui se sont débloqués ou pas?
Qui se sont débloqués pour la majorité, mais il y en a un encore qui s'appelle Adib, qui est encore à Kaboul et dont le ministère de la Défense a fait appel. Voilà.
L'interlocuteur désormais, alors effectivement vous le disiez, il y a eu la période Hollande, il y a la période Macron aujourd'hui, l'interlocuteur désormais, qui est-ce? Est-ce qu'il y a une écoute qui est particulière? On parlait des trois vagues tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que la troisième vague est toujours en cours? C'est-à-dire que d'autres Afghans vont pouvoir rentrer ou pas?
Alors non, la troisième vague a été bâclé en trois semaines, c'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères a envoyé une petite mission à Islamabad, à l'ambassade française d'Islamabad, pour avoir des interviews avec les rares sélectionnés, les rares candidats, entre guillemets. Et au bout de trois semaines, elle a considéré qu'elle avait fait son travail dignement, que tout avait été bien fait, et donc elle s'est retirée et elle a affirmé que tout était clos aujourd'hui.
Et quand on vous lit, ce qui est assez édifiant, c'est qu'on a l'impression que, alors ils sont réunis en association, effectivement, il y a cette avocate qui s'appelle Caroline De Croix qui s'occupe d'eux sans relâche, mais c'est tout.
C'est tout, oui. C'est ça. Ce qui est formidable, c'est que cette femme, Caroline De Croix, c'est une jeune mère qui qui travaille dur sur cette affaire-là depuis maintenant presque 5 ans, qui vit cette affaire, qui mange cette affaire, qui dort cette affaire et qui se bat et qui a obtenu des résultats. Et je pense qu'on peut vraiment la remercier pour ça.
Mais ça veut dire, Quentin Muller, pardon, qu'il n'y a pas d'opinion publique non plus, en fait.
Oui, derrière, la société civile, malheureusement, la société civile et politique aussi, on peut que le regretter, c'est timidement mobilisé derrière ces interprètes afghans, et heureusement qu'il y a Caroline aujourd'hui pour relever l'honneur de la France. Mais c'est pas non plus à la société civile de s'activer sur ces affaires-là, c'est surtout aux politiques.
Qu'est-ce qui se passe pour eux, ceux qui sont restés à Kaboul ou en Afghanistan? Comment est-ce que la vie, ça veut dire vivre caché? Est-ce qu'on peut cacher qu'on a travaillé pour la France? Est-ce que
c'est compliqué?
Ça veut dire mettre sa famille à l'abri? Comment ça se passe concrètement?
C'est compliqué. C'est une vie très compliquée. C'est une vie de peur constante. C'est une vie faite de déménagement aussi, dans des appartements qui sont petits, dans des quartiers qui sont pas chers, parce que c'est des gens qui ne travaillent pas ou très peu, qui se contentent de petites missions et qui espèrent que leur visage ne sera pas trop exposé à l'extérieur. Donc c'est pas des gens qui peuvent travailler qui peuvent prétendre à des jobs où ils sont trop exposés au public. Donc ce sont des gens qui sont souvent au chômage, qui enchaînent les petits boulots et qui vivent aussi de l'aide de leurs parents, de leur famille. Et pour un jeune afghan homme, il y a une honte de dépendre en fait de l'aide de la famille.
Voilà, toute cette enquête, en tout cas 2 ans d'enquête signée Quentin Muller et Brice Odlauer, c'est Tarjuman, enquête sur une trahison française, c'est publié chez Bayard, et je voudrais ajouter que la préface est signée François Sureau.
François Sureau, oui, qui a signé, je crois, une interview dans Le Monde là, il y a quelques jours.
Absolument, merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe au Bénin, à Djougou, d'où les filles partent pour aller travailler pour de riches familles au Koweït ou au Liban. Virginie Pironon nous racontera notamment comment les Japonais se font pirater sciemment pour comprendre les dangers des objets connectés. La chronique pour tous de Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
La vie entière alors est absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voire sous les jupes des filles.
Eh ben on peut plus.
Fini.
Voilà, terminé. Nada Walou, 2 ans de prison pour qui photographie sous les jupes des filles sans leur consentement. Ça se passe en Grande-Bretagne.
On verra ça ensemble tout à l'heure. Le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Faux.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et le Venezuela qui intéresse de très 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 près les Russes.
Ça commence à s'enliser là-bas et qui s'active en coulisses, c'est la Russie de Poutine.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Kenya. Tiens, voici G.S. Ondara, Saying Goodbye, et c'est tout chaud dans la playlist d'Inter.
With her legs, pain.
Didier Sombara. Ça s'appelle Saying Goodbye sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Virginie Pironon. Virginie, on commence ce soir avec le Japon où les autorités s'apprêtent à lancer un gigantesque piratage de données.
Alors nous sommes ici dans un train, Fabienne, au Japon, mais on pourrait être n'importe où, avec n'importe qui. Scène filmée à l'insu des voyageurs via une simple tablette. Cela fait plusieurs années que les autorités japonaises tentent de sensibiliser les habitants aux dangers que peuvent représenter les objets connectés. En 2020 auront lieu les Jeux Olympiques de Tokyo. Et ce que craint le gouvernement, c'est que des hackers, des pirates, tentent de perturber l'événement via des attaques de masse. Alors rien que l'année dernière, les Japonais étaient en possession de, tenez-vous bien, 11 milliards d'objets connectés, de la tablette à l'enceinte, la montre, le micro-ondes, l'éclairage, etc. Et le chiffre doit doubler les deux prochaines années. Pour sensibiliser donc les utilisateurs, le gouvernement a prévu de pirater des données parmi 200 millions d'adresses IP. Et puis aussi d'essayer des trucs tout bêtes, hein, comme sans login ou mot de passe standard. Par exemple, admin, admin, ou encore l'indécrottable 1234, hein, qu'on a tous tendance à utiliser.
Avouons-le.
Les internautes
seront
ensuite...
Non mais attendez, parlez pour vous. Non, non.
Oh, c'est très courant. Les internautes seront ensuite informés du piratage et seront donc amenés par la suite à se poser, c'est en tout cas ce qu'espèrent les autorités, les bonnes questions.
Voilà. Allez, en Inde, le premier film d'amour entre deux femmes qui révolutionne Bollywood.
Et il vient tout juste de sortir. Ek Latki Ko Deka To Aisa Laga. Pardon pour mon hindi. Littéralement, ça veut dire comment je me suis sentie hieux, ce que j'ai ressenti en voyant cette fille. Premier film d'une toute jeune réalisatrice qui dit vouloir, je cite, casser certains codes avec lesquels les générations actuelles ont grandi. Alors, vous l'entendez, hein, c'est bien du Bollywood. L'histoire peut se résumer ainsi. Sweetie, une jeune femme, est poussée au mariage par sa famille qui lui fait rencontrer des prétendants. Mais à chaque fois, elle refuse, elle doit vivre avec son secret et n'a qu'une peur, que son véritable amour ne soit pas accepté. Alors, de nos points de vue occidentaux, tout cela peut paraître un peu timoré, voire un peu mièvre. Mais dans un pays comme l'Inde, où l'homosexualité a été dépénalisée l'année dernière seulement, c'est une révolution. Selon les associations LGBT, rien que l'existence de ce film en soi est une victoire.
Et oui, la Chine entre aujourd'hui dans l'année du cochon, mais à Hong Kong, Virginie, les habitants n'en peuvent déjà plus.
Et c'est ce qu'on appelle là-bas la polémique porcine. Depuis plusieurs années, l'ancienne colonie britannique, plus connue pour ses gratte-ciels que par la jungle qui l'entoure, est envahie par les sangliers. Alors, avec certains habitants qui les nourrissent, ces cochons sauvages, qui seraient environ un millier, même si ça reste difficile de les recenser, ont pris de mauvaises habitudes et la cohabitation est de plus en plus compliquée. Sangliers filmés le long des routes, près des voitures, se promenant sur des plages bondées, sur le tarmac de l'aéroport ou encore plus spectaculaire, tombant d'un faux plafond.
C'est ennuyeux.
Ouais.
Comme vous dites, du faux plafond.
Ça a suscité une véritable scène de panique dans un centre commercial. C'est quand une femelle de 25 kilos a littéralement crevé le faux plafond avec ses pieds ou ses pattes.
Je pense que c'est comme ça qu'on dit, des pattes.
Elle est tombée dans le magasin de vêtements au milieu des mannequins. C'est assez étonnant. Alors, pas de blessés.
En même temps, elle a le droit de faire du shopping. Je vois pas où est le problème.
La pauvre. Pas de blessés, mais au mois d'octobre, par contre, là, deux personnes âgées ont été mordues. Alors, que faire? C'est la question qui déchire les habitants. Les autorités envisagent désormais sérieusement d'abattre les sangliers les plus agressifs. Une cinquantaine d'entre eux ont été stérilisés. Les élus tentent de proposer des solutions avec plus ou moins de bonheur, hein, comme l'introduction de prédateurs.
Oh, reste dans les magasins de vêtements.
Ça fait un peu peur. Peut-être le dinosaure dont nous parlait tout à l'heure, Sophie Bécherel.
Mais absolument, pourquoi pas.
Ils proposent aussi la légalisation de la chasse, pourquoi pas. Et même la relocalisation de ces sangliers sur une île inhabitée. Fausse bonne idée, car les opposants ont fait remarquer que les sangliers, ils savent nager.
Intéressant ce débat à Hong Kong. Merci beaucoup, Virginie Pironon. Sous les radars et à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est au Bénin que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir à Djougou. C'est au nord-ouest du pays, c'est la troisième ville, 300 000 habitants. Une ville qui a fait parler d'elle ces dernières années parce que c'est de là que venaient la plupart des jeunes béninois rapatriés de Libye ou d'Algérie. Bonsoir Delphine Bousquet.
Bonsoir Fabienne.
Delphine, Djougou c'est une ville commerciale et d'ici on est toujours parti et aussi revenu. Et en ce moment ce qu'on observe le plus, ce sont les jeunes femmes qui partent au Liban ou au Koweït pour aller travailler comme domestiques. On écoute votre reportage.
«
Mahamatou Tchala est assise sur une natte devant sa maison. Dans la cour, on fait déjà la lessive au milieu d'une ribambelle d'enfants qui attrapent des oranges avec des bâtons. C'est là que fin 2016, cette femme abandonnée par son mari polygame reçoit la visite de démarcheurs.
Les gens qui amènent nos filles là-bas sont venus nous voir. Ils nous ont dit qu'ils cherchaient des personnes pour travailler chez des patrons. On a tous parlé ensemble. Mes filles ont donné leur accord. Ils les ont pris en photo pour les passeports et ils ont pris leur bagage en même temps. C'est la souffrance qui nous oblige à laisser nos enfants partir.
Ses filles, Alifa la trentaine, mère d'un adolescent, et Zoubera, 20 ans, visage rond et cheveux couverts d'un voile coloré, partent au Koweït, travailler comme domestiques placées dans des familles par une compatriote installée là-bas. Aucun jour de repos, interdiction de sortir. Les trois premiers salaires, l'équivalent de 200 euros mensuels, remboursent le réseau. Ensuite, les deux sœurs envoient l'argent à leurs frères pour aider leur mère, malade, et la famille. À la fin de leur contrat d'un an, elles décident de rentrer chez elles. Zoubera ne regrette pas.
Je suis contente d'être partie, même si le travail était dur. J'ai pu acheter deux terrains. Si j'étais restée ici, je n'aurais jamais pu avoir tout ça. Je peux les revendre si j'ai besoin d'argent. J'ai des amis qui veulent aller au Koweït, alors elles me posent des questions et je leur raconte juste ce que j'ai vécu. Quand tu dis ce que tu as fait et que l'autre ne vit pas la même chose, c'est comme si tu mentais. Alors je ne les encourage pas, mais je ne les empêche pas non plus. Les filles ont peur d'avoir des problèmes là-bas, mais moi je n'en ai pas eu.
Alifa, elle, a construit sa maison juste à côté. C'est le nouveau visage de la migration à Djougou et cela inquiète les autorités locales. Elles n'ont pris conscience du phénomène migratoire que récemment, sous l'impulsion du nouveau maire, élu fin 2017. Djougou est une ville commerciale et ses habitants ont toujours été mobiles. Ils n'ont pas peur de l'aventure, comme on dit ici. Dans les années 90, c'était vers l'Europe, puis vers la Libye et aujourd'hui l'Algérie, le maire Abraham Abishai.
C'est par là ?
Oui, c'est là.
Leur besoin, c'est pas d'aller en Europe, c'est d'aller gagner de l'argent et de revenir investir ici et puis d'autres repartent. C'est comme ça. C'est des jeunes qui, la plupart du temps, ont appris un métier. Ils sont soit mécaniciens, soit maçons. Ils ont besoin d'un minimum pour s'installer, du capital pour s'installer. Mais ils n'en ont pas. Évidemment, les banques ne prêtent pas. L'administration n'arrive pas à les accompagner. Ils sont obligés de partir, de dire, bon, on va gagner de l'argent. Les gens partent par nécessité.
Après son élection, la mairie recense les jeunes en difficulté en Algérie et en Libye. 900 se signalent via les réseaux sociaux en une semaine. Mamamoudou Faisal a bien voulu aller en Europe par la Libye en 2012. Ce jeune homme athlétique aurait dû être footballeur professionnel au Bénin. Trop peu payé quand on doit soutenir toute une famille de plusieurs dizaines de membres. Elle se cotise alors pour son voyage. Arrêté avant de traverser la Méditerranée, bastonné, il est rapatrié par l'Organisation internationale pour les migrations. Aujourd'hui, il vend de l'essence au bord de la voie et constate que les migrants développent Djougou.
Si vous avez constaté, il y a les camions, beaucoup de camions ici. Vous voyez les tricycles là. Vous voyez, non? Donc c'est eux qui, souvent, ils envoient ça.
Ceux qui sont à l'extérieur?
Oui, oui, c'est eux qui envoient pour que les frères restent ici pour commencer par faire quelque chose ici. Sinon, ça ne va pas. Dans les familles, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Il faut que quelqu'un sorte.
Presque toutes les familles de Djougou ont quelqu'un à l'extérieur?
Presque toutes les familles. S'il n'y a pas là, vous allez commencer par chercher quelqu'un. Quelqu'un va sortir en même temps, il va dire qu'il va partir en Algérie. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Ils vont avoir quelqu'un en Algérie, soit en Libye, ou Gabon, ou en Europe. En tout cas, il y aura quelqu'un de là qui va partir là-bas.
David Bonny n'est pas sorti. Il travaille dans une ONG communautaire. Mais il a des amis en Algérie. Certains sont revenus, repartis. Et il voit bien que ses copains ont un nouveau statut et créent l'envie, même dans les villages où personne ne partait jusque-là.
Ils ont un peu de la valeur. Vous voyez un peu, ils sont respectés. Quand tu vas dans les villages, tu dis, ah, je viens de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays arabe. Ils sont riches là-bas, c'est un pays lointain. Et ils font semblant qu'ils couvrent un peu la souffrance qu'ils ont endurée là-bas. Ils ne disent même pas qu'ils ont travaillé, ils ont fait la maçonnerie, ils ne diront pas ça là. Ils diront que bon, qu'ils étaient dans un magasin ou bien quelque chose comme ça, quoi. Ils étaient à l'aise, c'est ce qu'ils disent. Et ça amène tous maintenant à repartir aussi, sans comprendre réellement ce qu'il y a là-bas. Lui, maintenant, quand il voyait du coup, il dit, ah, vraiment, ce qu'il a dit, c'est faux.
Dans les innombrables mosquées, on en parle, et les écoles coraniques, qui se multiplient, tentent de scolariser les enfants. Ousmane Sayouti, prédicateur, dirige un établissement de 400 élèves. Il s'est interrogé sur ce qui pousse les jeunes à prendre tous les risques.
Qu'est-ce qui produit cela? Il y a d'abord l'ignorance. La majorité des enfants qui sortent n'ont pas été à l'école, amènent des moyens des parents. Au cours de nos prières, le vendredi, les sermons, on essaie donc de porter ce message-là à l'endroit de la population, surtout d'amener les enfants à l'école, pour pouvoir garder ces jeunes-là dans le pays pour travailler, parce qu'il faut se suffire d'abord dans son pays.
La mairie, quant à elle, a ouvert deux structures alternatives pour apprendre les bases aux nombreux jeunes qui ne connaissent pas l'école ou l'ont quitté trop tôt, comme ces garçons qui jouent au foot. L'instruction, c'est peut-être le premier moyen de retenir les enfants de Djougou.
Retenir les enfants de Djougou, Delphine Bousquet pour Un jour dans le monde, merci beaucoup. Et voici Revolver, c'est sur France Inter, Get Around Town.
Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Home. You won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a war, the TV jail for us, TV jail for us. Such a drama, such a war, the TV jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. For us, TV jail for us. Police on the old place and camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town.
Ça s'appelle Revolver, Get Around Town sur France Inter.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saint-Esse.
You're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Julia Foyce, la garde à vous, tout le monde. La chronique pour tous. Donc Julia, parce qu'un homme sur deux est une femme, c'est ce qui fait toute la différence. Chaque semaine, les bonnes et les mauvaises nouvelles dans le monde côté égalité, inégalité, hommes, femmes, etc. On commence avec le hashtag de la semaine.
Stand up Japan, littéralement Japon, lève-toi. C'est le mot-clé qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux japonais, mais pas que. On le doit à une étudiante tokyoïte, Kazuna Yamamoto. Fin décembre, elle tombe sur un numéro de la revue Spa, pas généralement hyper connue hein, pour ses prises de position en faveur d'une sorte d'égalité homme-femme. Bref, là, il y a ce classement des universités où l'on trouverait le plus de filles faciles, assorties d'un mode d'emploi pour mieux les attraper. Kazuna voix rouge et lance sur Facebook une pétition assortie de ce hashtag pour obtenir des excuses du magazine. Au départ, elle n'en attend pas grand-chose. Il faut dire que le Japon est assez mauvais élève hein, en matière de rapport homme-femme, classé 110e sur 149 par le Forum économique mondial. D'ailleurs, le mouvement MeToo s'est fait sans lui, rien, aucun bruit, jusqu'ici, jusqu'à cette pétition, parce que là, surprise, ça fonctionne en quelques jours, 50 000 belle signature. Kazuna Yamamoto est alors invité sur tous les plateaux de télé, avec même un soir face à elle, le patron de Spa, qui présente des excuses aussi officielles que télégéniques, excuses de pure forme en réalité, absolument pas d'excuses sur le fond. Kazuna Yamamoto a donc décidé de ne pas en rester là, elle veut porter l'affaire devant le Parlement japonais. Ça pourrait en faire ma femme de la semaine, mais j'en ai une autre, Fabienne, ex aequo, allez.
Et cette autre-là, elle s'appelle Gina Martin.
Elle est anglaise et elle a 27 ans. Été 2017, elle assiste à un festival de rock avec sa sœur. Un groupe de jeunes types les aborde, elle s'éloigne, ils les suivent, les bousculent, elle s'éloigne encore. Et puis, intriguée par leur rire, Gina Martin se retourne. Ils sont hilars devant une photo d'elle prise au smartphone sous sa jupe. Furieuse, elle arrive à leur arracher le téléphone, elle fend la foule, fonce sur la police, leur met l'écran sous le nez, leur demande d'intervenir, d'arrêter ces Helmut Newton de la petite culotte. Mais non, rien à faire. Aucun texte de loi n'interdisant ce genre de pratique. Gina Martin n'a plus qu'à rentrer chez elle, pester, rager peut-être, mais oublier, passer à autre chose, ce que les policiers lui ont évidemment conseillé de faire. Sauf qu'elle a sa petite idée, la Gina, sur son téléphone à elle, un selfie d'elle et sa sœur en arrière-plan. On voit très bien, pour le coup, ceux qui ont glissé leur téléphone sous sa jupe. Hop, photo balancée sur Facebook, plus récit circonstancié des événements. Immédiatement, la photo devient virale, vue et partagée des dizaines de milliers de fois. Bien, mais Gina peut faire mieux, Gina le sait. Alors Gina fait étape 2, elle prend un avocat avec qui elle passe très vite à l'étape 3, les politiques, le Parlement, la loi. Après un an et demi de bagarre législative médiatique 2.0, la reine elle-même vient de promulguer ce texte. Désormais, toute personne ayant pris une photo sous la jupe ou la robe d'une femme sans son consentement risque 2 ans de prison. Aujourd'hui, Gina Martin exulte, mais pas seulement pour elle.
The biggest motivator was the amount of messages from women and girls that have...
Ce qui m'a le plus motivée, c'est que cela nous arrive tout le temps. Au supermarché, dans les transports, à la fac, dans les festivals, partout. Je sais qu'avant, personnellement, je ne me serais jamais engagée. Mais les temps changent avec MeToo et tout le mouvement qui a suivi. Et il fallait que j'y aille pour que cela bouge un tout petit peu.
Oui, Fabienne, les temps ont changé.
Oui. Sacré Gina.
J'entends vos inquiétudes, je sais, le risque d'une privation des libertés, d'un musellement de l'expression artistique, d'une invasion puritaine qui plomberait les rapports hommes-femmes, contraignant nos smartphones, bridant nos objectifs, castrant nos pouces eux-mêmes, et on ne peut plus rien dire, et on ne peut plus séduire, et c'est flatteur quand même, une photo sous une jupe, ça veut dire que t'as une belle jupe. Et si on peut pas photographier sous les jupes, alors bon, on peut photographier quoi, alors, quoi? Du calme, vous trouverez.
Allez, on termine avec l'appli de la semaine.
Et son petit nom, c'est Apcher, mise au point par les autorités saoudiennes. Elle permet aux hommes de pister leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles, au cas où celles-ci voudraient voyager seules, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. Elle tente de passer une douane, de rentrer dans un aéroport. Apcher aboie comme un bon chien de berger. SMS envoyé, l'homme est alerté, la femme arrêtée. Bah quoi, ça va Fabienne, en 2 ans, les Saoudiennes ont déjà obtenu le droit de conduire, d'entrer dans des stades et de monter leur entreprise sans demander l'autorisation de leur mari. Voudriez pas non plus qu'elles puissent circuler librement, non?
Non mais quelle horreur.
Mon Dieu,
mais vraiment, pas. Surtout pas. Allez Julia, reviens la semaine prochaine.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est toujours l'impasse au Venezuela et le bras de fer entre le président Maduro qui refuse de céder et le nouveau président autoproclamé de l'opposition, Juan Guaido.
Guaido,
à chaque fois j'ai un doute, c'est quand même terrible. On a d'abord eu l'impression que la crise pouvait être courte, elle semble maintenant partie pour durer. Et vous envisagez même ce soir une hypothèse, Jean-Marc, originale. Et si, contre toute attente, c'était la Russie qui tirait les marrons du feu de cette crise, c'est votre monde à l'envers.
C'est un classique dans les crises internationales, un peu d'emballement médiatique, on croit que ça va aller vite et puis finalement ça va lentement, voire ça fait marche arrière. Regardons par exemple avec le recul les révolutions arabes. Ça peut aussi se produire avec le Venezuela. On s'est beaucoup focalisé sur un seul côté de la pièce, le soutien à l'opposition vénézuélienne des États-Unis et des principales capitales européennes. Et on y a vu, non sans raison, un réveil de la tutelle de Washington sur le continent latino-américain, tout en imaginant un dénouement rapide de la crise. Sauf que du coup, on a oublié de regarder de l'autre côté. Alors regardons, on devrait être interpellé par la fermeté de l'appui à Maduro de la part de la Turquie et de la Russie. Moscou n'y va pas de mi-mot dans le vocabulaire. Pour les Russes, la position occidentale relève d'une violation du droit international et d'une ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela. Le tout est dit sur un ton sec, avec un argumentaire juridique réel. D'ailleurs, 2 semaines après, Où en est-on? Il y a bien une opération d'aide humanitaire pilotée par les États-Unis, mais on voit mal Trump aller plus loin. Il cherche à se retirer de tous les terrains de conflit, on le sait. Et en face, Maduro est toujours en place. Il semble fort du soutien de Moscou. Bref, ça commence à ressembler à un nouvel épisode de la guerre froide made in 21e siècle, du bras de fer à distance entre Russes et Américains.
Mais Moscou intervient vraiment dans l'affaire?
Et comment? Et c'est pour ça que ce match pourrait durer. On aurait tort de sous-estimer l'intervention et les intérêts russes dans ce dossier. Ces intérêts, ils sont de deux natures. D'abord, il y a le militaire. La coopération ne date pas d'aujourd'hui. La Russie est le premier fournisseur d'armes du Venezuela. Plus de 10 milliards d'euros en 12 ans. Tout y passe, Kalachnikov, tanks, avions, etc. avec des manœuvres conjointes à la fin de l'année dernière. Un conseiller militaire russe accompagne Nicolas Maduro et des mercenaires russes, officiellement membres de sociétés privées, auraient été envoyés en renfort ces derniers jours. Pour quoi faire? Pour protéger le président vénézuélien. Vous en voulez encore? Alors voilà maintenant les intérêts financiers. La compagnie russe Rosneft est largement investie dans l'exploitation pétrolifère sur place. 17 milliards d'investissements au total. Moscou est avec Pékin, le principal créancier du pouvoir à Caracas. Et puis, il y a cette étrange anecdote rapportée par le journal moscovite Novaya Gazeta. Ces 10 derniers jours, un Boeing privé russe a fait 2 allers-retours vers Caracas via le golfe Persique sans passagers. Et pour le journal, c'est certain, il transportait de l'argent liquide en très très grande quantité pour aider Maduro après la vente de stocks d'or vénézuélien conservés dans les banques russes. C'est pas une hypothèse totalement farfelue. En tout cas, une chose qui est claire, c'est que Moscou soutient Caracas.
Mais alors le calcul, c'est quoi?
En fait, c'est un calcul géopolitique qui devrait pas surprendre de la part de Vladimir Poutine. Le président russe, on le sait, raisonne en termes de puissance. L'allié Maduro est un pion géopolitique comme le Nicaragua, comme Cuba. Un allié symbolique sur le continent latino-américain. Un symbole de puissance russe dans le jardin de Washington. Et ça va peut-être un peu plus loin. Il y a aussi peut-être à l'œuvre une habileté tactique de Moscou. On l'a vu ces dernières années, la Russie a souvent tiré parti des situations de chaos et d'incertitude. Le meilleur exemple, c'est évidemment la Syrie. Comme les Occidentaux sont restés un peu au milieu du guet, la Russie a ramassé la mise. Alors, le Venezuela, d'accord, c'est pas la Syrie, mais il y a quelques points communs. Un régime autoritaire contesté, une révolte populaire au ressort complexe et hétérogène, un investissement occidental qui tâtonne. Ce sont les ingrédients d'une possible confusion qui peut profiter à un tiers, et ça, Moscou sait faire. Je vous l'accorde, c'est qu'une hypothèse, elle est un peu osée à ce stade, mais aujourd'hui c'est quand même difficile de savoir comment ça va tourner la crise au Venezuela, et ça pourrait tout aussi bien tourner à l'avantage de la Russie si l'impasse et le chaos s'installent.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci Jean-Marc, on se retrouve évidemment demain le 18-20, la suite c'est le téléphone sonne, et puis juste avant, le journal de Sébastien Paour. Merci de passer la soirée avec nous.